Bonjour, je m'appelle Mohamed.
Et moi, Fabio.
On va faire une émission sur les jeux vidéo et les jeux de société. Les deux jeux se nomment Minecraft et Uno. Minecraft a été inventé le 19 novembre 2011, il y a 4 ans. Les concepteurs sont Marcus Perrin, Jean Barcantin et Notch. Notch, c'est un personnage du jeu. Celui qui fait la musique est Daniel et son nom de code est C418. C'est un jeu composé de blocs représentant différents matériaux comme de la pierre, de l'or et du charbon.
Uno, 1985, il y a 30 ans. Le but du jeu est de gagner une manche pour laquelle il faut être le premier joueur à ne plus avoir de cartes en main. Sur plusieurs manches, le vainqueur est celui qui a moins de 500 points. En conclusion, la ressemblance est qu'on peut jouer à plusieurs joueurs. La différence, c'est que Minecraft est un jeu d'aventure, d'exploration à l'infini. Or, le Uno est un jeu de cartes qui a un début et une fin.
On a réfléchi sur la taille entre l'hippopotame et la souris pour montrer que la différence ne fait pas l'intelligence.
Donc, on a écrit un poème à la manière du fabuliste du XVIIe siècle, Jean de La Fontaine. On va vous le lire. Dame souris, sur un palmier couché, tenait dans son museau une date.
Maître hippopotame, par la faim emporté, le grogna à peu près ce langage.
Bonjour, madame la souris, que vous avez de belles dents.
Que vous me semblez petite, que vous avez de belles oreilles.
Honnêtement, si vos oreilles se rapprochent à vos dents...
Vous êtes le hamster d'Amsterdam. Et pour lui montrer ses belles dents...
Elle ouvre son museau, fait tomber sa date.
L'hippopotame attrapa la date et dit... Madame, apprenez que tout gourmand...
mange aux dépens des idiots, cette leçon vaut bien une date.
La souris, rieuse et contente, lui raconta qu'elle avait mangé la date
et qu'elle lui avait seulement laissé le noyau.
Comme quoi, tous les animaux ne sont pas bêtes.
Bonjour, Habiba au micro. Dimanche 22 novembre, je suis en compagnie de...
Karine
et Anne.
Pour notre première émission de radio, nous allons parler de la différence. Les pays froids et les pays chauds. Karine a vécu au Canada. Elle va nous parler de son expérience. Anne parle de son expérience en Égypte. Ma première question... Quel était le climat au Canada?
Au Canada, il faisait très très froid. La température moyenne était moins 30 degrés, en hiver bien sûr. Mais il faisait parfois très froid et la température descendait alors à moins 60 degrés.
Moins 60? Comment t'habillais-tu en hiver au Canada?
Je m'habillais normalement comme à manches courtes, mais... Je portais plusieurs vestes, des pantalons de neige, des bottes de neige. Mais quand j'entrais dans un espace fermé, chauffé, je les enlevais. Par exemple, à l'école, j'avais une armoire et j'enlevais tout. Et je restais avec des pantoufles et des shorts.
D'accord. Et en Égypte, comment est le climat?
En Égypte, en hiver, c'est pas trop froid. Je porte un pantalon, une veste et des chaussures. Le climat est 18 degrés et des fois... Quand c'est la nuit, c'est 10, c'est 11.
Et il fait chaud en Égypte. Comment t'habilles-tu?
En Égypte, c'est très chaud. Je porte un short, une manche courte et des sandales. C'est très chaud, de 30 degrés à 50 degrés.
Oh mon Dieu, il fait chaud. Quel paysage tu aimes en Égypte, Hind?
En Égypte, il y a toujours le soleil, beaucoup de végétation, il y a le Nil qui est très beau. J'aime la vue du corniche.
Et Karine, Quels différents paysages as-tu aimé au Canada?
Au Canada, il y avait des paysages très différents qu'en Égypte. Il y avait une rivière qui était devant ma maison et il y avait beaucoup de neige, des sapins, il y avait des feuilles mortes de toutes les couleurs sur le sol. C'était très joli.
Quelles sortes d'animaux as-tu vu au Canada?
Ah, il y avait des chiens domestiques de neige car il y avait beaucoup de neige, il faisait froid. Il y avait des cerfs dans la forêt. Et oui, il y avait trop d'animaux polaires.
Et toi, quelles sortes d'animaux t'as vu en Égypte?
J'ai vu des chameaux et des dromadaires dans le désert. Dans la ville, il y a des chiens, des chats, des corbeaux et des pigeons. Il y a plusieurs fourmis dans les maisons.
Qu'est-ce que tu aimais manger et boire quand il faisait froid au Canada pour te réchauffer?
Moi, j'aimais trop me réchauffer, donc j'aimais manger de la soupe ou bien des plats chauds en général car ils me réchauffaient. Et j'adorais le sirop d'érable sur les crêpes. Je buvais beaucoup de chocolat chaud.
Et quand il fait chaud en Égypte, qu'est-ce que tu bois et tu manges?
J'aime manger des glaces et des fruits parce qu'il fait très chaud. Je bois de l'eau et des jus de fruits.
Alors, quels différents sports as-tu pratiqué au Canada?
Ah, j'ai pratiqué du patinage sur glace. Je tombais au début, mais après j'étais très bonne.
D'accord. And quel sport tu joues en Égypte?
Je pratique en Égypte la natation à la piscine. En été, je vais à la côte nord, à la mer Méditerranée, pour faire du surf.
And as-tu déjà vécu dans un pays froid?
Non, j'ai pas vécu dans un pays froid.
D'accord. Karine, as-tu déjà vécu dans un pays chaud?
Je vis maintenant en Égypte.
D'accord. Karine, quels sont les points en commun entre le Canada et l'Égypte?
Mais à la fin, ce n'est pas différent car on doit seulement s'adapter à la vie dans chaque pays. Et si on s'adapte, ça sera facile. Par exemple, il fait froid au Canada, mais avec le réchauffement, c'est comme si on est en Égypte. C'est la même chose.
D'accord. Merci de votre écoute. Si vous voulez plus d'informations, vous pourriez regarder des livres au CDI. À la prochaine fois.
Bonjour, je m'appelle Marouane. Je vais vous parler de la société anglaise du Moyen-Âge, du 19e siècle, du 20e siècle et du 21e siècle. La noblesse est une classe sociale pour les personnes qui ont un titre et qui ont beaucoup d'argent. Et la pauvreté, ce n'est pas une classe sociale, mais elle désigne des gens qui ont peu d'argent. Du Moyen-Âge jusqu'à la fin du 19e siècle, la société anglaise est dominée par une noblesse terrienne. Mais au début du 20e siècle, leur pouvoir diminue et les classes populaires anglaises augmentent rapidement. Les titres de la noblesse anglaise sont baron et baronesse, vicomte et vicomtesse, comte et comtesse, marquis et marquise, duc et duchesse. Si quelqu'un est baron ou baronesse, comte ou comtesse, marquis ou marquise, on les appelle lord ou lady. Si on est en duc et duchesse, on les appelle votre grâce. Les serviteurs, on les appelle mister ou miss. Si on est un serviteur et on a fait quelque chose d'héroïque ou d'historique ou de merveilleuse, pour l'Angleterre, on peut voir un titre et ce titre est « Sœur ou Dame ». Les nobles habitent dans un manoir, dans un château, sur une grande terre. Les serviteurs souvent habitent avec les nobles pour les servir. Les nobles travaillent dans les affaires et dans les finances. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, les nobles ne travaillent pas. Mais après la guerre, les nobles commencent à travailler comme toutes les autres personnes. À partir de l'année 1919, beaucoup de nobles ont perdu leur vie. Alors cela a amené des élections au Parlement anglais pour augmenter le nombre de parlementaires, mais pas seulement des nobles, mais aussi on trouvera des gens d'autres classes sociales. Je conclus qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, quand les nobles ont perdu leurs héritiers, ils ont aussi perdu de nombreuses terres et leurs habitations. Maintenant, les nobles vivent comme nous. Dans la série Downton Abbey, Julian Fellowes nous montre comment petit à petit, les nobles ont perdu leurs privilèges après la Première Guerre mondiale.
Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 12 ans et cette recherche parle des différences entre les religions. J'ai pris comme exemple le bouddhisme et l'islam. Je suis allé sur Wikipédia et consulté d'autres sites. Voilà le résultat de mes recherches. Le bouddhisme est une religion et une philosophie. Elle contient des dieux limités et contient comme base principale de la doctrine qui est un livre appelé le Tripitaka. Le fondateur est Siddhartha. Ensuite, il s'est fait appeler Bouddha. Son histoire est, il croit qu'il est l'homme qui a compris la nature du monde. Il est d'une sagesse infinie et d'une compassion parfaite. Le texte dit qu'il est le sage des Sahaya. Le bouddhisme croit qu'il n'y a pas d'existence après la vie. Cette religion est implantée dans l'Asie sud-est. Par contre, l'islam est une religion monothéiste. Elle a un dieu unique, tout-puissant, Allah, et a pour texte fondateur le Coran. Le fondateur des croyants est Mahomet. Son histoire est, il est dans une grotte, l'ange Gabriel lui transmet et lui fait apprendre les paroles du Coran. Ensuite, Mahomet réussit à avertir les croyants qu'il y a un seul Dieu. Les musulmans croient à l'enfer et au paradis. Cette religion se situe à l'origine en Arabie. Voilà, j'ai comme conclusion, le bouddhisme est une religion et une philosophie qui permet de méditer sur la vie, tandis que l'islam est seulement une religion. En 2005, le bouddhisme comprend 230 millions d'adeptes. En 2010, les musulmans sont estimés à 1,6 milliard dans le Kaaba.
Bonjour, je m'appelle Ryan. Je vais vous présenter aujourd'hui un sujet qui a pour titre les inconvénients et les avantages de vivre à côté d'un volcan. J'ai comme exemple l'île de la Réunion et le volcan s'appelle le Piton de la Fournaise. Les avantages sont, quand il y a une éruption, cela fait tomber des pierres qui servent à construire une maison. La chaleur du volcan peut être utilisée pour chauffer les maisons ou pour produire de l'électricité. Quand la lave fertile sol, elle contient des produits chimiques dont l'action est bénéfique pour l'agriculture. Les inconvénients. Les coulées de lave brûlent tous les œufs sur leur passage et ensevelissent les champs et même des villes entières. Les gaz chauds expulsés des volcans intoxiquent les arbres, les animaux et les hommes. Quand il y a une éruption, entraîne la formation d'un grand nuage de cendres. En conclusion, la vie à côté d'un volcan est très dangereuse et comprend de nombreux inconvénients. Moi, si je vivais sur l'île de la Réunion, je préfère vivre au bord de la mer.